Bari yu bai diri di bai yam da dam bum 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 bum.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors, on continue sur la famille Zinger.
Ah oui, alors vraiment, la famille
avec
Zinger
eux,
est inépuisable.
C'est vrai.
Et oui, parce que je trouve que c'est vraiment quand même quelque chose de rare d'avoir trois personnes, trois grands écrivains ayant décrit tous les trois leur enfance, avec des, évidemment des points de vue différents, des Kugwinkel, comme on dit en yiddish. Et donc, c'est inépuisable. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur Esther Kreitmann, Esther Zinger Kreitmann. Mais cette fois, on va prendre le point de vue de son frère, donc du très célèbre Isaac Bashevis Zinger, dont j'étais en train de me dire dans ma tête qu'on pourrait aussi travailler sur les textes de l'autre frère, de Yeshua Israël, qui lui était aussi beaucoup plus proche d'elle. Donc, Bashevis Zinger, je rappelle encore une fois, est né 10 ans après ses deux grands... le grand frère et la grande sœur, donc elle est l'aînée, puis le frère, et ensuite deux petites sœurs qui n'ont pas vécu, et puis Bashevis. Voilà, donc Bashevis a une vision différente, et puis quand il est né, sa sœur avait déjà 10 ans, donc elle s'est occupée de lui. Voilà, les relations avec elle étaient bonnes. Mais bon, comment il la décrit, vous allez voir, oui, c'est pas toujours très... Je dirais, c'est pas que c'est positif, mais c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est assez juste. Il y a certainement quelque chose chez cette Esther. Elle était effectivement un peu bizarre, et c'était aussi à cause de la façon dont ses parents la traitaient. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser juger par vous-même. Et donc, c'est toujours dans le livre Au tribunal de mon père. C'est In mein Patatens Base Didistube. Un livre là aussi inépuisable.
Ah oui, il est formidable.
Formidable. Donc, ce sont des séries de petites photos, de petits tableaux de la vie quotidienne de cette famille.
Ouais.
Et bien sûr, beaucoup mieux en yiddish, mais en français, c'est pas mal non plus, traduit
aussi,
comme on le sait, de l'anglais. Bon. Nous ne connaissions pas Freud à cette époque. Et pourtant, on aurait pu dire qu'un drame freudien se jouait chez nous. Ma sœur soupçonnait ma mère de ne pas l'aimer, ce qui était faux. À la vérité, elles étaient incompatibles. Mon frère Israël Yeshua tenait de la famille de ma mère, mais Hindel Esther avait hérité l'inspiration chassidique, l'amour de l'humanité et la nature excentrique du côté de mon père. Si elle avait vécu à une autre époque, elle aurait pu devenir une sainte ou quelqu'un comme Hodel, la fille du Baal Shem, qui dansait avec les chassidim. Notre arrière-grand-mère, dont ma sœur portait le nom, portait des franges rituelles, donc le talit, et rendait visite au rabbin de Belz comme un homme. Ma sœur ressemblait à ces pieuses rebetzines qui jeûnaient, partaient pour la Palestine en pèlerinage et priaient là-bas sur des tombes très anciennes. Sa vie était un mélange de fêtes, d'hymnes, d'espoir et d'exaltation. Elle était un chassid en jupon. Mais elle souffrait d'hystérie et avait de légères attaques d'épilepsie. Parfois, on l'aurait cru possédée par un dibouk. Mon père l'ignorait parce qu'elle était une fille. Alors, vous vous souvenez du passage qu'on a lu il y a 2 semaines où elle demande à son papa « Qu'est-ce que moi je deviendrai ?» quand il dit que le frère Israël Yeshua deviendra un grand érudit. Alors, elle dit « Et moi, qu'est-ce que je deviendrai ?» Et le père ne lui répond tout simplement pas. Donc, c'est très bien vu de la part d'Isaac Bashevis. Mmh. Mon père l'ignorait parce qu'elle était une fille et ma mère ne la comprenait pas. Dans ses moments de loisirs, ma mère lisait un livre d'instruction morale et s'il lui arrivait de jeter un regard par la fenêtre, c'était avec une expression d'ennui et de tristesse. Le bruit et le monde la dérangeaient, elle ne s'intéressait qu'à la méditation. Ma sœur, au contraire, n'arrêtait pas de bavarder, de chanter, de rire du matin au soir en exprimant des opinions qu'elle aurait mieux fait de garder pour elle. Si elle aimait quelqu'un, elle le couvrait de louanges, mais ce qu'elle détestait était impitoyablement critiqué. Elle exagérait en tout, bondissait quand elle était contente, sanglotait quand elle ne l'était plus, et parfois même s'évanouissait carrément. Jalouse de mon frère Israël Yeshua, bon, à juste titre, j'ajoute moi. Elle portait contre lui d'incessantes accusations, puis, regrettant ce qu'elle venait de faire, elle courait l'embrasser. Après avoir furieusement pleuré, elle semblait soudain transportée de joie et se mettait à danser. Elle nous cajolait, nous serrait dans ses bras, mon jeune frère et moi, oui, puisqu'il y a encore un petit frère qui s'appelle Moshe. Avec elle, la moindre chose prenait une importance démesurée. Un barbier qui travaillait en face de chez nous tomba amoureux d'elle et lui adressa un billet doux. Elle s'imagina aussitôt que tout le monde était au courant. Elle ne faisait que parler de cela et eut désormais peur de descendre dans la rue. Il nous fallut beaucoup de temps pour la convaincre que les autres jeunes filles aussi recevaient des lettres de ce genre et que personne n'aurait eu l'idée de la blâmer. Un jour de Shabbat, l'entendant pousser des gémissements, je courus la voir et la trouvai devant le fourneau allumé dans la cuisine. Elle avait enfoui des papiers dont on se servait pour recouvrir les plats de Shabbat et une étincelle y avait mis le feu. Je dus lui expliquer ce qui s'était passé pour qu'elle renonce à l'idée qu'un démon s'était glissé là. Voilà, donc c'est intéressant parce que là, Isaac Bashevis se présente comme un rationaliste qui explique ce qui s'est passé, alors qu'en fait lui-même était très très mystique et croyait aux démons.
Et le père aussi.
Et le père, voilà. Donc il y a le père et la fille et aussi Isaac Bashevis, contrairement à Israël Yeshua qui lui a toujours été vraiment très rationaliste du côté de la mère. Voilà. Ouais. Ce n'était pas le genre de fille facile à marier, mais elle était jolie et on lui proposa un parti. Un juif de Varsovie, Reb Gedalia, administrait les fonds collectés pour une yeshiva en Palestine. Ses fils avaient échappé à la conscription en partant pour la Belgique où ils étaient devenus tailleurs de diamants. Mais son emprise sur eux restait si grande qu'il arrangeait leur mariage à distance. Apprenant que mon père avait une fille, Reb Gedalia envoya un marieur avant de venir nous rendre visite lui-même. Grand, massif, la barbe taillée en rond, il fumait le cigare. Il nous montra une photographie de son fils, un beau jeune homme à la barbe en rond, lui aussi, mais vêtu de façon moderne. À Anvers, où vivait son fils, nous dit Reb Gedalia, celui-ci priait chaque jour de manger que de la nourriture cachère et étudiait le Talmud. La preuve de sa piété, c'est qu'il laissait son père, choisir sa femme à lui, quoi. Comme Eliezer, l'esclave d'Abraham qui était allé chercher Rebecca pour la conduire à Isaac, Reb Gedalia était donc venu chez nous. Voilà, donc ça c'est... on passe déjà au mariage de la fille, puisque bon, elle grandit là. Voilà, donc je crois que tu as une chanson sur le mariage.
Une
bonne coïncidence.
Ouais, si non, ce n'est pas une coïncidence. J'ai lu la nouvelle avant de choisir les chansons qui allaient l'illustrer. Alors, c'est un groupe totalement inconnu, le Chaim de Heidelberg. Donc, ce sont des Allemands. Et puis, c'est un disque où il n'y a que des morceaux instrumentaux. Et voilà, une danse de mariage chassidique. Voilà, ça coche toutes les... Tout est besoin du récit au point où on en est. Ah, voici cette danse chassidique. C'est vraiment de la musique à danser, un petit peu répétitive.
Absolument, tout à fait bien pour les noces. Alors voilà, la noce n'est pas encore tout à fait faite. Hein. Donc mon père fronçait les sourcils. Il s'inquiétait à l'idée d'envoyer sa fille unique au-delà de la frontière. Mais ma mère était contente. Et lui, il devenait de plus en plus difficile de vivre avec quelqu'un d'aussi bizarre que ma sœur, qui avait acquis quelques idées modernes, lisait des journaux et des livres en yiddish, rêvait d'un grand amour et ne voulait pas d'un mariage arrangé. Ce qui emporta la décision, c'est que mon père n'avait pas d'argent pour une dot et que Reb Gedalia n'en demandait pas. Voilà, donc les arrangements se poursuivent. Et puis alors, on demande où aura lieu le mariage. Et bien, le mariage aura lieu à Berlin. Donc le père est très surpris. Mais Reb Gedalia lui dit, ne vous inquiétez pas, il y a des juifs partout. Je suis allé plusieurs fois à Berlin. Et puis après, il dit, Anvers est également une ville très juive. Je suis aussi allé à Paris et j'ai pris un ascenseur jusqu'au haut d'une immense tour. Alors je ne sais pas si c'est la tour Eiffel. Voilà, mon père et moi étions stupéfaits qu'un rabbin puisse parler français et habiter Paris. Voilà, donc là, on a vraiment l'ouverture vers le grand monde de ces juifs de Varsovie qui n'ont jamais quitté la Pologne. Après l'échange des premiers contrats, des lettres en yiddish fortement teintées d'allemand commencèrent à arriver du futur mari. Dans les réponses de ma sœur, la première étincelle littéraire de la famille apparut. Elle écrivait de longues missives, intelligentes, pleines d'humour, dont mon père ignorait l'existence, mais que ma mère lisait en s'émerveillant que sa fille possédât une telle maîtrise des mots. Comment cela était possible ? Hinde Esther n'était arrivée que depuis peu de Leontsin et de Radzimin, donc ça ce sont les petites villes où ils ont vécu avant. Ma mère elle-même était une merveilleuse conteuse, mais pas un écrivain. Ses lettres, toujours brèves, se composaient surtout de formules toutes faites. Voilà, donc là, Bachevisiger commence aussi à parler de la modernisation de la famille. Alors, par exemple, Israël Yoshua commençait à dessiner. Et puis aussi, il a acheté une grammaire russe qu'il a cachée à son père. Alors, vous savez que le père avait une relation extrêmement pénible avec le russe, qu'il n'a jamais réussi à apprendre, ce qui fait qu'il n'a jamais pu devenir un rabbin officiel. Et Israël Yeshua apporte aussi des livres en yiddish dont il disait que c'était de la littérature. Il nous racontait qu'en Palestine, il y avait des colonies où de jeunes juifs labouraient la terre et faisaient paître des troupeaux comme à l'époque de roi David. Et qu'en Russie, des révolutionnaires complotaient pour renverser le tsar et faire disparaître l'argent. En Amérique, disait-il, il y avait des millionnaires plus riches que les Rothschild qu'il fallait protéger d'une association de criminels appelée la main noire. Voilà, tout cela est bien sûr vrai. Donc là aussi, l'ouverture de cette famille au grand monde, à la modernité, aux choses qui se passent ailleurs que en Pologne. Voilà, on va peut-être écouter une autre
oui,
musique.
Alors elle n'est pas encore mariée, mais moi je vais la marier. Je vais faire une autre chanson de mariage. Alors ça, c'est un disque extraordinaire qui s'appelle Oi Division. Je crois que tu les as vus.
Oui, j'ai vu le spectacle. Oui,
hein. Ce sont des Russes qui vivent en Israël et qui chantent en russe et en yiddish. Ils sont formidables. C'est vraiment très tonique, très rythmé, très bien. Alors voilà, ça s'appelle le chant de mariage et Freiler. Donc Freiler, c'est une danse. Musique et paroles inconnues, ça doit être vraiment traditionnel, mais la manière dont c'est fait là par ce groupe, par Oi Division, n'est pas traditionnelle.
Beste. Hat man zugetragen werden, was am Eul noch kann euch reden, euer Zieger weißer Klare und nach Hasen keine Haare. Hey, hey, hört mich aus, hört mich alle, trinkt der Kost von Russen Kalle, als der Russen Mutter Dove soll in dir in seine Wobe. Die Junge voll mit Leben los der warmen Kusch euch geben, ich wünsch euch Glück und all das Gut und Kinder hat ja halb und tot. Dumda, 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 dumda.
Ça donne envie de se marier, tout de suite.
Ça dépend avec qui.
Voilà, donc on est toujours au préparatif du mariage. Hein. Une excitation tout à fait profane s'empara de notre maison à la suite des fiançailles de ma sœur. On préparait son trousseau. Notre appartement était rempli de soie, de velours, de jupes plissées, de maîtres, de couturières. Généralement de bonne humeur, ma sœur se mettait brusquement à accuser ma mère. « Tu m'envoies au loin parce que tu me détestes. » « Malheur à moi, tu me rendras folle. »« Mais c'est la vérité !»« Écoute-moi bien, je vais annuler le mariage. »« Non, j'aime mieux partir en exil. Je disparaîtrai. Tu ne sauras même pas ce que sont devenus mes restes. » Avant que ma mère ait eu le temps de répondre, ma sœur éclatait de rire, puis s'évanouissait. Mais elle le faisait toujours de façon à ne pas se blesser en tombant. Voilà, là, une très bonne description des évanouissements hystériques. Hein. C'est-à-dire, c'est pas vraiment comme dans une épilepsie, on sait où on tombe, quoi. Elle défaillait, clignait de l'œil, souriait. Et puis après, dans le texte français, vous avez, ça continue comme ça, moi aussi j'étais contaminée par les idées modernes, je commençais même à écrire. Et en fait, il y a donc une rupture, parce qu'on parle de l'évanouissement de la sœur, et puis tout d'un coup, on parle des idées modernes. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un morceau du texte yiddish qui n'a pas été traduit, que je vais vous lire. Elle se réveillait de son évanouissement et commençait à imaginer la noce à Berlin et le voyage vers Anvers. Ma mère avait commandé chez un coiffeur pour elle deux perruques, une de Shabbat et une pour la semaine. Mais ma sœur m'a confié un secret. Elle ne portera pas de perruque en Belgique. Elle ne veut pas se séparer de ses cheveux châtains. J'étais étrangement fière de la confiance que me faisait l'aînée de la famille. Et j'étais en quelque sorte d'accord que les propres cheveux sont plus beaux qu'une perruque. Voilà, et donc là, logiquement, on passe aux idées modernes. Hein. J'ai été contaminée par les idées modernes. Je commençais même à écrire à ma façon. Je prenais des feuilles de papier dans le tiroir de mon père et les couvrais de gribouillages et de dessins bizarres. J'avais une telle passion pour ce genre d'écriture que j'attendais avec impatience la fin du Shabbat pour recommencer. Ma mère, qui me regardait, s'exclamait « Que crois-tu être en train de faire ?»« Oui, qu'est-ce que tu fais hein ?» Les enfants normaux ne se comportent pas ainsi. Voilà, c'est ainsi que se termine ce
Ah oui, d'accord. Alors, comment on peut expliquer ça? C'est la seule chose qui manque par rapport au...
Alors, il faudrait que je relise tout, oui. Mais j'ai l'impression, oui, parce que bon, voilà, quand on
lit
ça...
De manière générale, ce qui n'a pas été traduit en anglais et donc en français, et qu'on ne retrouve pas dans les textes français, puisqu'on le sait, le français, ça, c'est à partir de l'anglais, c'est ce qui est trop spécifique. Mais là, tout le monde sait qu'il y a des, que les femmes religieuses portent des perruques.
Oui, justement. C'est vrai que là, on a été très surpris, parce que je l'ai traduit avec mon groupe de Yiddish, on a été très surpris, parce qu'effectivement, souvent, c'est des allusions à des textes kabbalistiques, ou alors, effectivement, des formules comme ça, typiquement Yiddish, qui sont effectivement quasiment intraduisibles. Mais là, franchement, c'est, comme tu as vu, j'ai traduit tout ça, c'est très très facile. Et surtout, je trouve que ça introduit vraiment une rupture dans le texte. Quoi. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi on passe de l'évanouissement aux idées modernes, alors que là, on voit que elle a effectivement ses idées modernes, elle ne veut pas porter de perruque, ce qui va contaminer, si on peut dire, le petit frère. Quoi. Ouais. De toute façon, bon, bah, Schlesinger était très influencé par sa sœur et surtout par son frère.
Ouais. Et on apprend aussi qu'il y a deux perruques, ça je ne savais pas moi, qu'il y avait la perruque de Shabbat.
Oui, effectivement, oui, ça aussi, c'est vraiment...
Je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, dans les milieux vraiment religieux. Alors, on les marie encore?
Ben oui, si on a encore un peu le temps, et puis sinon on va déjà prendre congé peut-être sur cette musique de mariage.
Voilà, donc c'est Danser avec le rabbin.
Ah oui.
Dancing with the Rabbi. Là, c'est une édition américaine d'une série de... C'est un mélange de différents groupes. Mais la réalisation est américaine et donc c'est Giora Feidman en soliste dans ce morceau-là, donc un morceau instrumental très beau, mais je ne sais pas si on pourra l'entendre jusqu'au bout. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Shalom Aleichem. Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.